Bonjour à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission de Les Landes et du Ciel, émission proposée par l'Astro Club du Marsan pour vous faire découvrir notre univers. Je me présente, Yves De Angeli, et pour m'accompagner aujourd'hui, Lydie Mourgue, membre de l'Astro Club du Marsan.
Bonjour.
Donc aujourd'hui, nous embarquerons pour un voyage interplanétaire au cœur de notre système solaire. C'est proche de nous, on voit des points lumineux dans le ciel. Donc on va aller se promener un petit peu dans cet environnement et surtout essayer de comprendre comment il est né et comment il a évolué et pourquoi il est comme ça actuellement. Donc au centre de notre système planétaire, on a une étoile, notre Soleil, et autour on a tout un ensemble de petits corps qui sont tous différents les uns des autres. Et la question qu'on peut se poser, c'est comment cette diversité a été créée, comment c'est arrivé, comment ça s'est fait. Alors, dans l'univers, il y a des nuages, un nombre innombrable de nuages de matière qui sont générés par la mort des étoiles. On le verra sur une autre émission quand on parlera de la vie des étoiles. Globalement, une étoile, quand elle terminera sa vie, va expulser de la matière, toute la matière de son environnement. Et à partir de là, eh bien, ce nuage sera mis à disposition pour créer de nouvelles étoiles. Donc les nouvelles étoiles sont apparues, on va dire 180 millions d'années, on pense, après le Big Bang, hein, qui, je vous rappelle, date de 13,8 milliards d'années. Donc c'était relativement rapide. Et les premières étoiles qui sont nées dans l'univers à cette époque-là, il y avait une énorme concentration d'hydrogène. Donc ce sont des étoiles qui sont composées principalement d'hydrogène, et donc des étoiles qui, en règle générale, étaient des superbes géantes bleues, donc très très chaudes, qui ont consommé rapidement leur énergie, très très rapidement, parce que le fonctionnement d'une étoile, c'est du gaz se condense, la pression est suffisamment élevée pour qu'au centre démarre une réaction nucléaire, et c'est un combat entre la chaleur qui sort du cœur de l'étoile et la gravité qui a tendance à faire tomber les atomes sur le cœur de l'étoile. Donc c'est ce petit combat en fait qui est tout le temps, qui fonctionne, qui fait fonctionner l'étoile. Et à l'intérieur de l'étoile, eh bien, on va retrouver des pressions qui sont très très élevées. Et en fonctionnement, au cours de la vie de l'étoile, plus elle va consommer d'énergie, plus ça va faire évoluer les températures en son cœur. La pression va compresser aussi l'intérieur du cœur. Et en fonction de la température, eh bien, on partira de ces petits atomes d'hydrogène qui étaient là au départ. Eh bien, ils vont se fusionner sur des atomes qui sont un peu plus compliqués. Par exemple, à partir de 10 millions de degrés, on verra apparaître de l'hélium, du carbone, de l'oxygène, de l'azote. Voilà. Le stade suivant, à 1 milliard, eh bien, du sodium, du néon, de l'argon, etc. 2 milliards, on aura du titane, du chlore. En fait, au fur et à mesure du fonctionnement de ces étoiles géantes, au fur et à mesure de l'élévation de température, eh bien, les atomes qu'on connaît du tableau de Mendeleïev, eh bien, ils sont créés petit à petit au cœur de l'étoile. Et quand la densité est trop forte, c'est-à-dire qu'on va arriver au-delà des 3 milliards de degrés, la densité est tellement forte que ben, on va pouvoir aller sur des étoiles super géantes jusqu'au fer. Et le fer, après, on ne peut plus faire de fusion après le fer. Donc forcément, la fusion va s'arrêter. Et si la fusion s'arrête, l'énergie qui était donnée en direction du cœur vers l'extérieur de l'étoile va s'arrêter. Et donc, c'est la gravité qui va prendre le pas là-dessus et l'étoile va s'effondrer sur elle-même. Et donc, quand l'étoile va s'effondrer sur elle-même, toutes ces masses de matière qui vont venir taper dans le cœur, eh bien, suivant la masse de l'étoile, bah, ça va nous faire une supernova, par exemple, ou une hypernova. C'est-à-dire que si on a une étoile qui est vraiment géante et qui explose, eh bien, le rebond va être tellement puissant que ça va nous faire des supernovas ou hypernovas. Pour des étoiles un peu plus petites, eh bien, comme le Soleil, par exemple, hein, ça fera une nébuleuse planétaire. C'est-à-dire que le petit noyau qui reste au centre, ben, restera là, il va se refroidir tout doucement et toutes les couches extérieures de l'étoile, plus tout ce qui est autour, bah, partira dans l'espace et créera un nouveau nuage qui servira bah, sûrement à la création de nouvelles étoiles dans quelques temps.
Alors toutes les étoiles, elles ne sont pas composées des mêmes éléments?
Non, elles sont toutes différentes justement parce que tout dépend de leur lieu de naissance. Quand on regarde notre système solaire, donc notre étoile, notre Soleil, on estime que c'est une étoile de troisième génération, c'est-à-dire que les composés qu'on a trouvés Dans l'atmosphère du Soleil, où les composés qu'on a trouvés, ben, on va le voir, hein, dans le nuage qui était autour, qui a servi à faire les planètes, eh bien, il a fallu y avoir plusieurs cycles. Deux cycles avant de supergéantes qui ont, voilà, qui ont explosé et qui ont créé en fait ces différents atomes et ces différents éléments. Donc, il y a de tout qui est disponible dans les nuages. En fonction de l'endroit où naît l'étoile, eh bien, on aura une étoile d'un certain type, quoi. Pour nous, notre système solaire, il a été créé il y a environ 4,6 milliards d'années. Voilà. Donc il y a un tout petit bout d'un énorme nuage qui a été compressé. Il y a une étoile qui a explosé à côté, une supernova qui a explosé à côté, qui a compressé ce gaz. Et quand on compresse un gaz, eh bien, il chauffe, il monte en température. Et donc ça a suffi pour faire démarrer, on va dire, au cœur de ce nuage, faire démarrer une proto-étoile. Donc une petite étoile qui a commencé à agglutiner, qui a récupéré toute la matière qui était autour, jusqu'à avoir suffisamment d'énergie pour vraiment démarrer. Et dans ces cas-là, cette étoile, une fois qu'elle a démarré, eh bien, les réactions nucléaires débutent à l'intérieur de l'étoile et on reprend une vie habituelle de consommation d'énergie au centre de l'étoile. Et pour nous, dans ce nuage-là, quand l'étoile a démarré, il y a des lois physiques qui font que naturellement, l'attraction va être importante. Donc tous les atomes, même s'ils sont un petit peu loin, ils vont être attirés par le cœur de l'étoile. Donc ils vont se rapprocher du cœur de l'étoile. Et une autre loi physique explique qu'un élément de très forte densité se met en rotation naturelle. Et donc c'est ce qui fait qu'on est parti d'une boule de gaz pour arriver finalement à un disque maintenant, au moment de la création. Donc dans ce disque sont concentrés la totalité des atomes présents autour de l'étoile. Et c'est dans ce disque, justement, que vont naître les différentes planètes, puisque à l'intérieur, petit à petit, on va avoir le petit grain de poussière qui est un peu plus grand que l'autre, et il va attirer le plus petit, qui va grossir, et puis en grossissant, il va en attirer plus. Et donc, on va, par le phénomène d'accrétion, on appelle ça l'accrétion, les objets vont vraiment grandir en prenant tout leur environnement, tout ce qui traîne autour. Donc, dans la création, ce qu'on pense, nous, dans la création du système solaire, c'est que tous les éléments qui étaient volatiles, tous les gaz qui étaient volatiles à côté de l'étoile, ils étaient trop chauds pour que ces gaz puissent s'accréter, se rassembler. Et donc les seuls qui pouvaient s'accréter, c'était tout ce qui était des silicates ou des éléments ferreux, donc des atomes lourds, on va dire, qui étaient présents. Donc ça expliquerait pourquoi on aurait des planètes avec des sols très proches de l'étoile et pourquoi, plus loin de l'étoile, au-delà de la ligne des glaces, donc la ligne des glaces, c'est à peu près la ligne de Jupiter, c'est à la ligne à partir du moment où la température est suffisamment faible, d'accord, que les éléments légers peuvent être capturés et peuvent s'assembler. Donc Jupiter, qui se trouve juste après cette ligne des glaces, c'est une géante gazeuse, et toutes celles qui sont derrière sont aussi des géantes gazeuses. Donc pour nous, cette théorie, elle fonctionnait pas mal, dans l'idée, ça paraissait bien. Mais on va voir que finalement, c'est peut-être pas tout à fait ça. Hein. Mais depuis longtemps, les philosophes ou les astronomes se sont posé cette question-là, de savoir est-ce que on est seul ? Est-ce qu'il n'y a que nous dans l'univers ? Ou est-ce qu'il y en a d'autres ? Est-ce que le fait que les planètes soient comme ça, est-ce que c'est un cas d'espèce ? Ou est-ce que c'est la règle dans l'univers ? Donc, on a Giordano Bruno, Newton, d'autres philosophes qui ont essayé d'aller réfléchir à tout ça. Et finalement, les preuves de savoir si on était seul ou pas, ou si c'était vraiment une exception, c'est arrivé il n'y a pas très longtemps. En 1995, une équipe, donc Michel Mayor et Queloz, qui étaient dans l'observatoire de Haute-Provence, ils ont détecté une première exoplanète autour d'une étoile. Donc c'était 51 Pégase, donc c'est l'étoile dans Pégase. Ils ont vu que cette étoile, il y avait une étoile qui était pulsante, et autour ils ont vu qu'il y avait un objet qui passait devant. C'est ce qui expliquait que l'étoile pulsait un petit peu. Mais cet objet, il était très proche de l'étoile. Et malheureusement, c'était une géante gazeuse. Dans notre théorie, c'est pas possible. Dans notre théorie, proche de l'étoile, à la distance où ils l'ont mesuré, ça devait être obligatoirement un objet tellurique. Et non, c'était une géante gazeuse. Donc ça veut dire qu'effectivement, notre estimation, notre compréhension, on va dire, de la création du système solaire, elle n'est peut-être pas tout à fait bonne. Donc, on recherche, et puis on va aller regarder un petit peu, voir comment ça pourrait faire. Donc il y a une théorie qui a, qui est sorti un petit peu de ça, qui a l'air de fonctionner pas trop mal, ce serait que les planètes, à la création d'un système planétaire, certaines planètes sont à peu près à leur place et bougent pas beaucoup, et d'autres planètes, surtout quand elles sont géantes, elles ont tendance à se déplacer, à bouger, à migrer, on va dire. Elles ont des mouvements à l'intérieur, qui vont à l'intérieur du système planétaire, et ça ferait bouger un petit peu tout. Donc, on peut se dire que d'après cette théorie-là, il est possible qu'on ait une super géante à côté d'une étoile.
Alors, la migration des planètes, qu'est-ce que ça veut dire ?
Ben, ça veut dire ça, c'est que les planètes bougent. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que la Terre, actuellement, on connaît la distance de la Terre par rapport au Soleil, on ne peut pas dire qu'elle est née là. Ça, c'est clair. Et que toutes les quatre premières telluriques ne sont pas nées à leur position où elles sont actuellement. Puisque c'est le fait que ces grosses planètes, c'est des planètes qui sont énormes. Vous imaginez Jupiter, c'est une planète qui est énorme, qui crée une attraction très très forte. Elle concentre, on le verra tout à l'heure, énormément de matière. Et donc, on a Jupiter et à côté, on a Saturne. Le fait d'avoir ces deux planètes géantes les unes à côté des autres, ça crée des effets de liaison gravitationnelle entre elles. Et en fait, cette liaison gravitationnelle a tendance à pousser un des deux astres vers le centre du système. Donc Jupiter est rentré. Il est rentré, on estime, peut-être jusqu'à la distance de Mars. Voilà. Et par ce jeu gravitationnel entre Jupiter et puis Saturne, ça l'a empêché d'aller plus loin et il a été rattiré vers l'extérieur. Il est reparti vers l'extérieur. Bon, avec les gaz qui étaient plus importants entre les étoiles, etc. Enfin, entre les planètes. Donc il y a eu cette espèce de yo-yo pour ces planètes géantes qui sont rentrées dans le système solaire interne et qui ont bousculé un petit peu tout. Hein. C'est comme sur une table de billard où un élément qui se déplace fait obligatoirement déplacer les autres. Et dans notre système planétaire, actuellement, nos planètes elles sont positionnées sur des orbites bien connues. Mais il suffirait qu'un événement arrive sur une des planètes pour que la totalité des orbites évolue, puisqu'on est sur un équilibre où les forces d'attraction s'équilibrent de corps à corps et avec le Soleil. Donc ces migrations ont éjecté cette planète quand elle est passée, Jupiter, tous les petits corps qui n'étaient pas encore formés. Il y en a beaucoup qui ont été éjectés, une partie vers l'extérieur, donc c'est ce qu'on va peut-être retrouver après dans les différents nuages qui sont très loin de notre étoile. Et l'autre partie a été, par contre, elle a été envoyée en direction du système interne, soit sur le Soleil, soit aussi sur les planètes telluriques qui ont été bombardées et qui ont pu, comme ça, grossir, hein, qui ont pris un petit peu de masse, un petit peu de poids et qui ont permis d'avoir vraiment des volumes un peu plus importants, quoi. Donc on va retrouver tout ce qui a été éjecté vers l'extérieur. Se retrouve dans la ceinture qu'on appelle de Kuiper. C'était découvert par Kuiper, théorisé par Kuiper. Et c'est là-dedans qu'on va trouver des planètes naines. Il y en a une qui est connue, c'est Pluton. Malheureusement, qui a été déclassée, mais c'est Pluton. On va retrouver Makemake, Omea. On va retrouver des corps qui sont quand même des corps qui sont quasiment des planètes. Quoi. Quasiment de point de vue taille. Quoi. Et donc, plus loin, d'autres corps ont encore été éjectés encore plus loin par ces mouvements. On va retrouver les petits graviers qui étaient là, qui ont été éjectés et qui nous font un réservoir de comètes, qui est le nuage d'Oort. C'est un nuage qui est un peu plus loin encore, derrière Uranus, Neptune, Pluton, etc. etc. On a un nuage de comètes, où on a un réservoir de comètes qui viennent nous voir un petit peu de temps en temps. Quoi. Donc on voit que tout a bougé, tout a un petit peu a été déstabilisé au fur et à mesure du temps. Et petit à petit, tous les éléments qui appartenaient à ce disque, ont été récupérés par les planètes, et qui ont été accrétés par les planètes. Donc petit à petit, on arrive à faire le système solaire qu'on voit maintenant.
Donc au cours de la création du système, l'espace était un peu embouteillé. Comment ça s'est rangé pour ressembler à ce que l'on voit aujourd'hui ?
Ça s'est rangé dès que les deux géantes sont reparties à leur place, la place qu'elles ont maintenant. Les forces de gravitation qui liaient donc ces deux planètes, qui avec l'attraction du Soleil, etc. Tout ça a permis d'un petit peu stabiliser. Il y a eu encore un moment où tous les objets, comme j'ai dit tout à l'heure, qui traînaient un petit peu, ont été éjectés un peu n'importe où. Pour nous, il y a un élément il y a un gros caillou, une planète qui est à peu près de la taille de Mars, pendant ce moment-là qui était éjectée de son orbite, elle est venue percuter la Terre. Donc heureusement, elle n'a pas percuté de face, elle a percuté de manière tangentielle. Donc elle a quand même arraché une grosse partie de la Terre. Et tout ce qui a été arraché, elle s'est mis en orbite naturellement autour de la Terre et ça a fait la Lune. Et la Lune s'est formée très très rapidement. Et on a cette information-là en se disant que notre Lune, elle est réellement née de cette collision. On a trouvé ces informations-là suite à la mission Apollo qui a été sur la Lune, qui a ramené des cailloux. Et puis en analysant ces cailloux, on m'a rendu compte que c'était des cailloux qui étaient identiques au manteau terrestre. Donc ça veut dire qu'il y avait une partie de la Lune qui appartenait à la Terre. Lors de la création des planètes, en fonction de l'endroit où elles se trouvaient par rapport à l'étoile, les composés qui ont servi à faire ces petites planètes étaient différents pour chacune des planètes. Donc on pourrait dire que chaque planète, elle a une carte d'identité, elle a un profil génétique qui correspond à sa distance, à quelle distance elle était lors de sa naissance. Donc on continue, le système solaire continue à fonctionner. Régulièrement, on récupère de la matière. Hein. La Terre reçoit entre 60 et 100 tonnes d'éléments qui viennent de l'espace tous les jours. Donc on continue à récupérer de ces poussières qui traînent encore, dans l'espace, mais maintenant c'est assez stabilisé et les seuls objets qui encore se baladent un petit peu, on va retrouver les comètes, on va retrouver les astéroïdes, on va retrouver tout ce qui vient un petit peu des différentes ceintures qui peut être déstabilisé et qui peut venir nous passer nous voir, quoi.
Et toi, qu'est-ce que tu vois? Et toi, qu'est-ce que tu vois?
Là-bas, les aurores boréales, les neiges éternelles, toute la beauté du monde qui nous interpelle. Je pense à nos enfants sous la voie lactée. Un beau jour, c'est la lune qui vient me parler. Je vois le soleil qui brûle au-dessus de moi, l'Amazonie qui fume à côté de toi. Mes frères et mes sœurs sur la même route, forcés de quitter leur terre, coûte que coûte. Dans ton corps, dans ton cœur, c'est ta planète, ta maison, ton trésor que tu maltraites. C'est ton art que tu brûles d'une allumette. Tu as entre tes mains le soleil de demain. C'est l'appel des étoiles dans la ville folle à changer mon destin d'homme parmi les hommes. Retrouver l'essentiel après des années quand les marchands de sable veulent te faire oublier. Dans ton corps, dans ton cœur, c'est ta planète, ta maison, ton trésor que tu maltraites. C'est ton art que tu brûles d'une allumette. Tu as entre tes mains le soleil de demain. Dans ton corps, dans ton cœur, c'est ta planète, ta maison, ton trésor que tu maltraites. C'est ton art que tu brûles d'une allumette. Tu as entre tes mains le soleil de demain.
Alors, tu nous as promis un voyage. Maintenant que l'on a compris que tout comment s'est passé, prenons ton train-voile pour le système solaire.
Là, on va partir. Je vais attacher vos ceintures. On va partir de faire notre petite balade dans le système solaire. On va commencer par notre étoile, le Soleil, celle qui nous permet de vivre. Donc, notre étoile, le Soleil, c'est une étoile, on va dire, moyenne. C'est une étoile jaune, moyenne. On dit qu'elle est dans la séquence principale, c'est-à-dire qu'elle a... on va dire c'est un adulte, c'est pas un adolescent, c'est pas un grand-père. Voilà, elle est dans sa séquence normale. Elle fait sa petite vie tranquille. Comme c'est une petite étoile, elle va vivre très longtemps. Et c'est un peu ça qui a permis que, en ayant cette stabilité dans l'étoile, ça permet que s'il y a de la vie qui peut arriver, elle a le temps de se stabiliser, elle a le temps de s'installer. Donc notre Soleil, lui, c'est vraiment un objet très très puissant, puisqu'il il contient 99,85% de toute la masse du système solaire. Donc c'est vraiment le point central, le point le plus lourd. Hein, et l'élément qui va être le plus lourd après, ce sera Jupiter, qui sera le deuxième élément qui va être lui aussi très très lourd. Alors notre étoile, elle est relativement petite, hein, elle fait 1 400 000 km de diamètre. Bon, on peut quand même mettre 109 fois la Terre dans son diamètre. Donc on est encore beaucoup plus petit que notre Soleil. Et on est situé dans notre galaxie qu'on appelle la Voie lactée. Même pas au centre, on est situé dans un petit bras extérieur, le bras d'Orion. Et puis on y est pas mal finalement dans ce bras-là, puisque voilà, tout se passe bien. Donc notre Soleil, lui, c'est vraiment la source de vie. C'est-à-dire qu'il va pouvoir, il nous transmet de la lumière, l'apport d'énergie lumineuse, et il nous transmet de la chaleur. Il permet à ce que, avec cette chaleur, l'eau reste liquide. Et comme on sait que pour que la vie se développe, il faut un solvant, donc un liquide, et bien c'est peut-être ça qui a favorisé que la vie émerge sur la Terre plutôt qu'ailleurs, puisque on a de l'eau liquide. Mais il y a un mauvais côté du Soleil, on en a parlé l'émission dernière, il y a plein de rayonnements qui sont autour, donc il y a beaucoup de rayonnements qui sont dangereux pour nous. Heureusement, l'atmosphère elle est un peu opaque, donc elle interdit le passage de ces rayonnements. Les UVA et les UVB, il y en a très peu qui passent, par exemple, donc ça nous protège des cancers. Voilà. Donc la distance de... Nous, on est situé à 150 millions de kilomètres de notre étoile. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle une unité astronomique. On parlera d'unité astronomique, ça évitera de jouer avec des chiffres très très longs. Et globalement, si notre Soleil s'éteint instantanément, on mettra 8 minutes et 19 secondes pour se rendre compte qu'il s'est éteint. Parce que la lumière, elle met un certain temps pour venir. La lumière voyage à 300 000 km par seconde, donc il faudra un certain temps pour s'en rendre compte. Donc notre Soleil, c'est un Soleil qui est composé d'hydrogène, d'hélium, et puis quelques éléments lourds qu'il a volés dans la nébuleuse primitive. Et donc au cœur, on a des réactions nucléaires avec beaucoup de rayonnement. Et puis ça, quand ça arrive sur Terre, ça nous fait des aurores polaires, boréales ou australes. Donc c'est très sympa. Quand on s'éloigne du Soleil, on va retrouver une toute petite planète, c'est Mercure. Petite planète, elle est tellement proche du Soleil qu'il n'y a plus d'atmosphère. Ça a été soufflé par les vents solaires principalement. C'est une planète qui fait 4880 km de diamètre, donc très petite. Principalement composée de roches, de fer, pardon. C'est-à-dire que comme elle était très proche de l'étoile, dans la théorie, effectivement, elle a récupéré un maximum de fer. Donc elle a un noyau rocheux qui est énorme. Voilà, il n'y a pas d'atmosphère à l'intérieur sur la planète parce qu'elle est morte. Tout simplement, elle est morte. Et comme elle est très proche de l'étoile, la face qui est au Soleil, il fait plus de 420 degrés. Et la face qui est à l'ombre, il fait moins 183 degrés. Donc ce n'est pas vraiment l'endroit idéal pour poser nos valises.
Donc pas très agréable comme destination de vacances.
Non, pas tout à fait, non. Donc on a sa petite voisine, c'est Vénus, qui est la très belle Vénus, Vénus déesse de l'amour, de la beauté. Donc elle nous a beaucoup intéressés parce que, vu de la Terre, elle avait de l'atmosphère qui était un petit peu dense, et on s'est dit, pourquoi pas aller observer Vénus. Bon, après les analyses qu'on a fait sur Vénus, il y a un effet de serre qui est énorme, c'est une grosse cocotte minute, et en fait sur Vénus, il fait 470 degrés, de jour comme de nuit. Donc on continue à observer pour comprendre le mécanisme de l'effet de serre, parce que on sait très bien que sur la Terre ça peut nous arriver. Donc on va utiliser Vénus comme observation.
Alors aussi pas très intéressante pour passer les vacances, mais instructive pour ce qui pourrait arriver à la Terre si nous ne faisons rien.
Exactement. Donc on va parler de la Terre. Bon, la Terre elle fait 12 800 km de diamètre. Voilà, c'est la plus massive des telluriques. Donc on va pas trop parler d'elle parce qu'on la connaît bien, on est dessus. On va plutôt... on n'a qu'un seul satellite, c'est la Lune.
Alors celle-là, on la connaît un peu. Allons un peu plus loin.
Donc c'est Mars, la planète Mars, la planète rouge, la planète rouillée parce que y a beaucoup d'oxyde de fer à sa surface. Elle fait à peu près la moitié de la taille de la Terre. Elle est vraiment très petite. Il n'y a pas d'atmosphère ou très peu dessus. Elle a deux satellites, mais qui, à l'inverse de la Lune, ce sont plus des objets capturés que vraiment des objets qui ont été issus... de la création de système planétaire. Et puis, c'est la planète qu'on observe beaucoup parce que quand on regarde sa surface, on a l'impression qu'il y a de l'eau qui a coulé par le passé. Donc on a envoyé beaucoup de sondes là-dessus. Et à côté, on va retrouver la ceinture d'astéroïdes, qui est l'endroit où sont stockés plein de petits cailloux, plein de petits objets. Donc on a notre ceinture d'astéroïdes qui est là, qui sont un ensemble de petites roches.
Alors pas de petits dômes verts, et après c'est comment ?
Après, c'est la planète dont on a parlé, donc Jupiter et Saturne, ces grosses planètes qui sont géantes. Elles sont énormes. Jupiter fait 320 fois la masse de la Terre, donc c'est vraiment des planètes géantes. Des planètes de gaz, il n'y a pas de sol, on ne peut pas se poser dessus. À l'intérieur, il y a des pressions qui sont énormes, on ne pourrait pas s'approcher ou se poser dessus. Dès qu'on rentre dans les nuages, on est détruit, on est écrasé. Mais ce sont des planètes qui sont intéressantes, c'est les gardiennes, en fait. Elles vont attirer tous les petits objets qui passent à côté, vont être attirées, et puis ça va nous protéger.
Il commence à faire un peu froid, alors.
Plus on va vers le fond du système solaire, plus il fait froid. Les surfaces, les températures qu'on aura, par exemple, pour Saturne, qui est la prochaine, on est sur des moins 173, moins 180 degrés, donc on commence à être très froid. Et Saturne a un système d'anneaux, c'est pour ça qu'elle est très belle à regarder, un système d'anneaux de glace qui est vraiment très très sympa.
Ça continue, c'est beau, mais pas très vivable.
Non, pas très vivable. Donc on va regarder rapidement les deux dernières qui sont un petit peu jumelles. Donc on a Uranus, qui est une planète gazeuse aussi. Bon, elle fait 14-15 masses solaires. C'est une petite planète gazeuse, en fait, qui a récupéré la matière que les deux géantes ont bien voulu laisser. Donc c'est pour ça que ce soit Uranus ou Neptune, ce sont des petites gazeuses à cause de ça.
On a fait le tour. À part la Terre, pas vraiment d'endroit vivable.
Eh bien non, malheureusement, à part la Terre, pour l'instant, il n'y a pas d'endroit où l'homme peut vivre normalement. La solution, c'est peut-être de protéger celle qu'on a nous maintenant, parce qu'on sait que dans le système solaire, il n'y a pas d'autres endroits où l'homme peut vivre. Donc, pour se souvenir de l'ordre des planètes, il y a des petites phrases. Je vais vous en donner deux. Hein. « Me voici toute mignonne, je suis une nébuleuse. » Ou « Me voilà tout mouillé, je suis un nuage. » On prend la première lettre de chacun des mots et puis on a l'ordre des planètes.
Si on allait faire un petit tour interplanétaire, un petit circuit, un petit séjour loin de l'atmosphère, la pesanteur c'est vraiment lourd. Notre terre pour aller faire le grand parcours du système solaire, direction le soleil bien sûr, une visite brûlante à Mercure, recul d'un petit saut de puce, bonjour lumineuse Vénus, encore un retour en arrière pour un coup à notre terre, surtout ne perdons pas la trace jusqu'à la rouge planète Mars. Si on allait faire un petit tour interplanétaire, un petit circuit, un petit séjour loin de l'atmosphère, la pesanteur c'est vraiment lourd, quittons notre terre faire le grand parcours du système solaire, beaucoup plus loin gazeuse sphère, sa grande majesté Jupiter, et bientôt dans le ciel nocturne, voici les anneaux de Saturne, des millions de kilomètres en plus, bonjour à la froide Uranus. Enfin avec ses 14 lunes, nous voilà tout près de Neptune. C'était bien beau ce grand parcours interplanétaire, mais il était long le retour vers notre atmosphère. La pesanteur, même si c'est lourd, nous on la préfère pour observer de notre terre notre immense pure. Observer de notre terre notre immense univers.
Donc retrouvez-nous pour la prochaine émission qui parlera de la naissance de l'univers. Enfin des théories qui pourraient l'expliquer, parce que chaque découverte en répondant à une question en pose des dizaines d'autres. Mais c'est ça la science. Et ce qui est vrai aujourd'hui ne l'est peut-être pas tout à fait demain. Nous explorerons les théories admises et les autres pistes possibles. Un voyage dans l'inconnu ou l'incertitude au sourd de notre univers. Bon ciel à tous. Et à toutes. C'était Les Landes du Ciel, une émission proposée par l'Astroclub du Marsan. Nous vous donnerons rendez-vous le mois prochain. Retrouvez également cette émission dans les podcasts de Radio MDM.